la présidente du jury du prix du Livre Inter 2018, Leïla Slimani, et notre invitée ce matin, Léa Salamé, Eva Bétan, au micro de France Inter également. Vous avez la parole, Claire, au standard 01 45 24 7000. Vous nous appelez de Metz.
Oui, c'est ça. Bonjour France Inter, bonjour Monsieur Demorand, bonjour Madame Slimani.
Bonjour.
Tout à l'heure, lorsque vous avez parlé de francophonie donc avec Monsieur Demorand, une question a surgi comme ça en vous écoutant. France Inter a reçu Paul Auster plusieurs fois à la suite à l'apparition de 4-3-2-1. L'immense Paul Auster donc est venu répondre aux questions de France Inter en français. Et ça m'a... j'ai eu la question suivante qui est apparue comme ça. Qu'est-ce que vous pensez-vous du fait que notre président de la République s'exprime, lui, en anglais dans différentes occasions internationales?
Merci Claire pour cette question. Leïla Slimani vous répond.
Moi, je pense qu'il faut pas mettre les langues les unes contre les autres. C'est très bien de parler l'anglais. Aujourd'hui, c'est nécessaire de parler l'anglais dans le monde qui est le nôtre. Et il faut parler aussi d'autres langues. Parler le français, parler, pourquoi pas, l'arabe, l'espagnol. Vous savez, là, je sais pas si vous avez entendu, suite à la polémique qu'il y a eu autour de cette jeune fille, Ménel, j'ai entendu quelqu'un dire à la télévision, ah non, mais chanter en arabe par les temps qui courent, ça n'est pas bien. Moi, je trouve ça assez incroyable qu'on idéologise les langues comme ça. L'arabe, c'est une langue qui est parlé par 550 millions de personnes, qui est une langue aussi de poésie, une langue de littérature. Donc je pense qu'il faut parler le plus de langues possible et que dans le monde actuel, c'est merveilleux parce que comme le disait un poète marocain, quelqu'un qui ne parle qu'une seule langue, c'est quelqu'un qui vit dans une maison avec une seule fenêtre et qui regarde toujours le même paysage. Donc ayons le plus de fenêtres possible, ça fait entrer la lumière.
Léa Salamé.
C'est pas que le fait qu'elle parle qu'elle chante en arabe qui a causé le problème. Ménel a dû démissionner, ou elle a choisi de démissionner de The Voice après la polémique sur ses tweets. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez regretté? Est-ce que vous regrettez qu'elle ait lâché l'affaire?
Écoutez, moi, ça m'a fait penser à un texte de Julien Green qui écrit à propos de cet épisode très célèbre de Jésus-Christ à qui on demande de jeter une pierre sur une femme adultère qui a été condamnée à la lapidation. Et Julien Green écrit « Il faudrait des mains pures pour jeter la première pierre. Or, ce qu'il y a de remarquable avec les mains pures, c'est qu'elles ne jettent pas de pierre. » Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle main jette quelle pierre sur cette jeune fille. Il y a quand même quelque chose de très gênant, ce complotisme qu'il y a derrière. Moi, je n'arrive pas à démêler parce que en lisant les articles, on n'arrive pas à savoir. Des gens vous disent qu'elle est là, cette jeune fille, que derrière il y a les frères musulmans. Que d'autres vous disent qu'au contraire, tout ça est venu de. Enfin, c'est très difficile à démêler.
Il se trouve qu'il y avait des tweets.
Voilà.
Où elle a.
Ces tweets sont stupides, sont complètement idiots, sont irresponsables. En même temps, sincèrement, je pense qu'ils sont banals. Il faut aussi être lucide. Ces tweets-là, on peut en lire des dizaines et des dizaines sur les profils de beaucoup de gens. Moi, j'ai aussi été, par exemple, victime de tweets du bloc identitaire qui sont franchement des tweets pas sympathiques non plus quand vous retrouvez avec des 100% crouillettes, retourne au bled, etc. Bon, c'est pas non plus très décent. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait penser à une chose. Malgré tout, sur la question du voile. C'est que moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça après. Il y a un mois, je suis allée présenter la publication de mon livre en anglais à Londres. Et quand je suis arrivée à Londres, mon éditeur avait organisé un grand déjeuner avec des journalistes connus, des Instagrammeurs, des blogueurs, etc. Et trois des journalistes qui étaient à table étaient voilés, dont une journaliste du Financial Times. Et ça n'avait l'air de choquer personne. Personne n'en avait rien à faire. Et je me suis quand même posé la question. Je me suis dit, Leïla, en France, combien de fois ça t'est arrivé de te retrouver face à une journaliste voilée? Réponse, jamais.
Jamais.
Combien de fois ça t'est arrivé de regarder la télévision et de voir une jeune femme voilée qui n'était pas là parce qu'elle était voilée ou en tant que femme voilée, qui était juste une femme française là pour... jamais.
Si.
Bah, quand?
Ménel, par exemple.
Voilà, Ménel. Bah, ça, là, c'est la première fois. Donc, il y a quand même quelque chose. Il y a une invisibilité de ces femmes. Alors, est-ce que ça veut dire que la France est un pays tellement émancipateur pour les femmes, qui fait que les femmes enlèvent toutes leur voile et que c'est pour ça qu'on ne les voit pas parce qu'elles n'existent pas? Bon, évidemment, je ne le crois pas. Donc cette invisibilité, quand même, je l'interroge. Et je me dis, est-ce que véritablement il faut jeter la pierre? Est-ce que véritablement il faut exclure? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une... Bon, là, je vais être très chrétienne ce matin, décidément. Est-ce qu'il ne faut pas croire aussi à la rédemption, au pardon? Est-ce qu'on ne peut pas pardonner à une fille de 15 ans? Est-ce qu'on est l'esclave de son passé? Je trouve ça quand même terrible de se retrouver l'esclave de ce qu'on a dit quand on avait 15-16 ans. C'est très angoissant, je trouve.
On retourne au standard. Bonjour Nicole.
Oui, bonjour.
Bienvenue, allez-y, on vous écoute.
Oui, alors, bonjour à tous d'abord. Et je voulais demander à Madame Slimani, qui est amoureuse de la langue française, qu'est-ce qu'elle pense donc de l'Académie française et de son travail, puisque j'ai l'impression qu'elle se contente de reprendre dans le dictionnaire les mots qui sont passés dans l'usage courant. Et je reproche un petit peu de ne pas inventer des mots nouveaux, puisqu'il y a quand même des sports nouveaux, des technologies nouvelles, des tas de choses. Donc,
bien compris. Bien compris, Nicole. Merci pour cette intervention. Que pensez-vous de l'Académie française?
D'abord, je pense qu'on a de la chance d'avoir l'Académie française. Il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de langues qui nous envient d'avoir finalement ces sortes de vigies, ces gens qui vont tout le temps travailler sur cette langue, l'étudier, faire attention à son usage, faire attention à la façon dont on la pratique. Et puis, vous parliez des mots nouveaux. Non, mais il y a des mots nouveaux qui entrent constamment dans le dictionnaire, qui sont étudiés par l'Académie française. La langue française est une langue qui a évolué par l'usage. Donc, c'est selon l'usage que l'on fait de cette langue et selon la fréquence avec laquelle on utilise un nouveau mot.
C'est pas l'espace le plus réformateur de la langue, puisqu'il est conservateur, au contraire.
L'Académie, de manière générale, n'est pas là non plus pour tout réformer, pour tout moderniser.
À quand votre entrée à l'Académie française, Minerve, la présidente du Livre Inter, ça mène à tout.
Alors là, pas tout de suite. Et alors moi, je ne savais pas du tout que l'Académie française, en fait, il faut se présenter. Moi, je pensais qu'on venait un jour, on tapait à votre porte et qu'on vous disait est-ce que vous voulez faire partie
comme pour le jury. Non, il faut une pulsion narcissique.
Alors ça, pour moi, ça c'est la limite. Je ne pourrais pas aller vous dire s'il vous plaît, prenez-moi. Ça je peux pas parce que c'est trop dangereux sur le plan narcissique justement qu'on dit non. En fait, on veut pas. Donc non.
Quelques questions à la romancière. On a beaucoup entendu, suite au mouvement de libération de la parole des femmes, que des œuvres Antonioni, Balthus pouvaient être jugées irrecevables aujourd'hui en raison de l'image des femmes qu'elles véhiculent. Vous êtes donc romancière. Votre position sur cet aspect-là du débat, le patrimoine, les grandes œuvres telles qu'on ne les avait peut-être pas lues, faut-il continuer à les montrer ou pas ? C'est un vrai sujet qui est débattu. Hein.
Oui, bien sûr. Ce sujet, la question de la morale en art, c'est un grand sujet philosophique qu'on ne va pas résoudre là. Mais moi, je pense au contraire. Il faut peut-être même d'autant plus les lire, d'autant plus les regarder, d'autant plus se pencher dessus. Parce que ça dit aussi quelque chose du regard qu'on a eu qu'on a posé sur les femmes pendant longtemps, du regard qu'on a posé sur la sexualité notamment des enfantines, puisqu'il y a aussi des questions liées à la pédophilie. Moi, je pense que Egon Schiele, il faut continuer à le voir, d'abord parce que c'est beau, et puis ensuite, il faut s'intéresser, se documenter, essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi il peint ces personnages. Mais non, au contraire, il faut continuer, évidemment, à lire et à regarder ses œuvres.
Et il y a un autre aspect dans ce débat massif, qui est qu'il est difficile aujourd'hui de porter un regard de cinéphile strict, on va dire. Je me tourne aussi vers Eva Bettan, sur un film de Woody Allen, sur un film de Roman Polanski. Est-ce que la distinction entre la vie de l'artiste et son œuvre a volé en éclats? Est-ce qu'aujourd'hui elle n'est plus tenable, dans le cas notamment d'artistes vivants?
Je crois qu'il y a deux choses. D'une part, il y a la qualité de l'œuvre en elle-même. Quand l'œuvre est une œuvre extraordinaire, elle s'impose d'une certaine manière. Il y a une évidence de l'œuvre d'art qui est absolument incontournable. Donc un très grand film est un très grand film. Après, nous sommes dans une société médiatique où on invite les gens, on leur pose des questions, on leur demande d'une certaine façon d'avoir un avis sur la société. Et donc, quand vous invitez un homme qui est accusé de faits très graves ou qui a été condamné pour ces faits très graves, évidemment, là, se pose un problème dans la présentation que cet homme va faire de son œuvre et de lui-même. Mais pour moi, il y a une séparation entre l'œuvre d'art et l'auteur.
Et celle-là, évidemment, elle doit tenir.
Pour moi, elle doit tenir. C'est même pas qu'elle doit tenir, c'est qu'elle tient de fait, parce que, comme je vous le disais, pour moi, l'œuvre d'art s'impose. Un très grand tableau, vous aurez beau faire, il a pu être peint par un monstre, c'est un très grand tableau.
Léa ?
Sur les pamphlets de Céline, est-ce que vous avez un avis sur Maurras qui devait être commémoré et qui ne le sera pas ? Est-ce que vous avez un avis ?
Moi, sincèrement, sur les pamphlets de Céline, je pense que des pamphlets publiés par des gens qui vont travailler dessus, qui vont faire un vrai travail critique, c'est intéressant. C'est intéressant intellectuellement. Évidemment, faut pas que ça tombe dans n'importe quelle main, mais enfin, c'est la règle du jeu. Moi, j'ai toujours défendu de toute façon la liberté. Je pense que le monde intellectuel, la littérature, ça doit être et ça devra toujours rester un espace de liberté. Donc oui, pour moi, il faut publier.
Pensez-vous que les artistes, les romanciers, toujours dans ce contexte et dans les débats que ça ouvre, cette fameuse libération de la parole des femmes, pensez-vous donc que des artistes et romanciers vont écrire différemment, s'interdire des choses, penser à ne pas choquer, éviter certaines situations, certains mots, certains personnages, retenir la main en quelque sorte?
Mais vous savez, ça, je crois que ça a toujours existé, il ne faut pas se leurrer. Par exemple, les femmes, pendant longtemps, se sont auto-censurées parce qu'il y avait des choses qui ne se disaient pas, qui ne se faisaient pas. Et puis parfois, ça amène aussi beaucoup de souffrance. La liberté que nous impose l'art, elle nous revient parfois en pleine figure. Ça n'est pas toujours facile, justement, de lutter contre ces peurs. On a toujours peur quand on écrit, on pense aussi au prix qu'on va payer. Regardez aujourd'hui tous les auteurs, tous les intellectuels qui ont des fatwas, qui ont des menaces. Ce sont des gens aussi qui prennent des risques. Donc, à la fois, je pense que ça a toujours existé et en même temps, je pense qu'il y aura toujours cette liberté parce qu'elle s'impose aussi dans l'exercice même de la littérature.
D'après vous, pas d'autocensure,
pas
peut-être
plus qu'avant, moi,
dans la
je
main
pense
de l'écrivain,
pas.
Mais chez les éditeurs, point d'interrogation.
Non, je crois pas. Je ne crois pas non plus. Sincèrement, je crois pas parce que quand on est dans ce travail-là, quand on est à l'intérieur de ce monde-là, qu'on n'est pas dans la médiatisation de l'œuvre, on réfléchit pas à ça. On a simplement, il faut que ça se tienne, c'est tout.
Allez, on retourne au standard. Bonjour Jacques.
Bonjour France Inter et bonjour à Leïla. Alors je suis admiratif de tous vos écrits. Et la question c'est un petit peu, vos écrits c'est un petit peu des grains de sable dans le rouage de la société un peu archaïque de toute une région, d'une partie d'une région d'Afrique. Et est-ce que ça va pas déclencher tous ces écrits, vous et plein d'autres, une révolution un petit peu dans des esprits comme on a pu connaître nous en 68, parce que nous aussi on était dans une situation assez
donc
fermée,
vous pensez que Minerve Leïla Slimani pourrait être une 2018 arde comme vous fut 68 art, Jacques, c'est ça?
Absolument, oui, je j'ai beaucoup d'espoir que au moins que la société se libère quoi de ces carcans et que enfin respire et je pense que
on va lui demander voilà. Je lui transmets le pavé si vous me permettez, Jacques. Leïla Slimani.
Écoutez, moi aussi, évidemment, comme vous l'imaginez, je l'espère, mais c'est la question qui m'a toujours hantée. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas libre? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous en train de se battre pour sa liberté? C'est très difficile parfois quand vous écrivez, quand vous militez, vous vous retrouvez confronté à des gens qui sont dont vous avez le sentiment, vous, qu'ils sont aliénés, qu'ils n'arrivent pas à sortir de cette aliénation. Vous êtes tenté parfois de les juger, de dire mais enfin pourquoi est-ce que tu ne te soulèves pas? Et vous vous rendez compte que ça n'est pas si facile et que effectivement les rouages dont vous parlez sont très très bien agencés pour que cette liberté n'advienne pas. Mais effectivement, je crois qu'en côtoyant aujourd'hui la jeunesse, notamment dans les pays du Maghreb, j'ai l'espoir en tout cas qu'elle a envie de se battre pour sa liberté, pour son intimité, pour sa vie privée. Je crois que les femmes, les homosexuels aujourd'hui sont en train de conquérir un espace de plus en plus grand et je m'en réjouis.
Les critiques sont très vives, Leïla Slimani, y compris chez des intellectuels proches d'Emmanuel Macron sur la politique migratoire et la politique d'asile du gouvernement. Humanité et fermeté, dit-on du côté de l'exécutif. On voit bien la fermeté, on voit mal ou plus mal l'humanité. Est-ce que vous joignez votre voix à ces critiques?
Moi, je l'ai déjà dit dans une autre émission. D'abord, je la comprends pas, moi, cette politique migratoire, parce que je trouve qu'elle est expliquée, effectivement, comme vous le disiez, beaucoup avec l'angle de la fermeté, mais que cet angle de l'humanité, on ne l'entend pas. Je trouve qu'il n'est pas très incarné. Je trouve que le rapport aux associations qui sont sur le terrain, qui font ce travail, ce rapport-là reste très distant, très froid, alors que, au contraire, moi, j'ai le sentiment qu'il faut célébrer le travail que font ces gens, qu'il faut célébrer aussi tous les anonymes qui font preuve aujourd'hui de solidarité, qui font l'honneur de notre pays. Donc oui, moi je suis critique, surtout parce que je comprends pas, que je la trouve inaudible, et que pour moi, de toute façon, il faut aussi être lucide. La migration, c'est pas une question qui va s'arrêter dans un an ou dans deux ans. C'est aujourd'hui la grande question de notre temps, et de toute façon, le monde occidental va être confronté pendant longtemps. Donc il faut avoir une réflexion profonde et intense.
Vous lui
et réelle.
Vous en avez parlé à Emmanuel Macron, vous lui avez envoyé des messages sur ça.
Oui, il m'a entendu là-dessus. Donc je pense qu'il est tout à fait conscient de mon point de vue. Il m'a pas répondu.
Bon, on verra. On est encore que le début février. Hein, voilà. Donc la réponse peut arriver. Il est 8h56. Restez avec nous, Leïla Slimani.